Radio Okapi.
Les informations, Jacques-Yves Molima.
Le secrétaire d'État américain Tony Blinken arrive ce mardi à Kinshasa. Une visite qui intervient au moment où la RDC est victime d'une agression des groupes armés et terroristes, notamment le M23 appuyé par le Rwanda. Et puis les villes de Bukavu, Vira et Goma connaissent de sérieuses perturbations en énergie électrique depuis hier lundi. À la base, les machines de la SNEL Sud Kivu sont tombées brusquement en panne. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est attendu à Kinshasa. Vous le savez, qu'est-ce que cette visite peut représenter pour la RDC et les États-Unis? Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken est attendu ce mardi en milieu d'après-midi ici à Kinshasa. Il sera reçu en début de soirée au palais présidentiel du Mongaliema par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Outre la question du dernier rapport d'experts de l'ONU sur l'invasion des troupes rwandaises muées au M23, il sera question au cours de ces rencontres de partenariats stratégiques entre la RDC et les États-Unis. Ces derniers temps, Washington et Kinshasa ont raffermi leurs relations bilatérales et diplomatiques. Qu'est-ce que cette visite peut représenter pour les deux pays? On écoute le professeur Serge Tshibangu, mandataire spécial du chef de l'État au micro de Billy Yvan Lutumba.
Je crois que la diplomatie de haut niveau prônée par son excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de donner ses fruits aujourd'hui. Le fait qu'il y a par exemple le groupe d'experts des Nations Unies qui vient de publier son rapport, bien sûr qui est confidentiel, qu'il a soumis au comité des sanctions des Nations Unies, vous avez plusieurs rapports qui attestent de la situation réelle sur le terrain à l'est du pays. Donc tout ceci sont des démarches diplomatiques qui aboutissent aujourd'hui à des résultats concrets. Donc la diplomatie ne s'arrêtera jamais et devra continuer, même si après il y a d'autres canaux pour faire passer des messages, ça peut être des approches militaires, mais la diplomatie a toujours un pas d'avance par rapport à toutes les autres approches.
Signalons que le demain mercredi, Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour le Rwanda. Et puis en Ituri, environ 20 personnes sont mortes à Kalanda ou dans la région de Berunda, limitrophe de la province voisine du Haut-Tuélé. C'était au cours des combats dimanche et lundi entre les assaillants de la Codeco et ceux de la milice Zaïre. Des sources de sécurité rapportent que les belligérants disent vouloir protéger leurs communautés respectives, ce qui a occasionné un mouvement important de la population. Marcel Kizabiamungu.
Les dimanches derniers, les assaillants de la Codeco ont lancé des attaques contre les miliciens du groupe armé Zaïre à Kalandaou, vers Boku. Motif invoqué, protéger la population appartenant à la communauté Lori, qui serait réduite en esclave depuis plusieurs mois par des miliciens de Zaïre. Selon des sources de sécurité, les miliciens zaïrois majoritaires dans cette région ont répliqué à cette attaque. Plusieurs sources dans la région de Berunda affirment que ces combats se sont poursuivi jusqu'au lundi après-midi. D'après la même source, le bilan est d'environ 20 personnes abattues, parmi elles plusieurs miliciens du groupe armé Zaïre. Ce bilan n'est pas encore confirmé par des sources officielles. 4 armes du type AK-47 ont été récupérées par les assaillants de la Codeco. Ce mardi matin, c'est un calme précaire qui s'observe dans les villages de Kalandaou et Berunda, vidé de la population de la communauté Lori qui a fui vers Makofi à 10 km plus loin. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Alors, il ne faut pas que la douleur qui affecte les populations de l'Ituri les ramène à oublier l'essentiel, qu'est celui de préserver la paix dont cette province a besoin pour retrouver la stabilité. Ce sont là les premiers mots du nouveau chef de bureau de la MONUSCO à Bounia, adressé particulièrement aux jeunes. Il réagit au dernier massacre des civils enregistrés dans les territoires de Djougou et d'Irumu dont le bilan à ce jour s'élève à près de 65 personnes tuées par des hommes armés. Karna Soro affirme que les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé leur présence aux côtés des FARDC pour organiser des patrouilles dans Irumu. Il ajoute que la mission onusienne appuie le processus de dialogue communautaire initié par le gouvernement en vue d'éviter l'escalade de la violence. Karna Soro est au micro de Jean-Claude Lokidile.
Immédiatement, nous avons activé des mécanismes, notamment par exemple en renforçant
les patrouilles au niveau de l'axe Komanda Mambasa. En appui au FRDC, on continue à travailler avec les autorités pour renforcer le dispositif sur ces axes-là dans les jours à venir, donc pour essayer d'anticiper autant que faire se peut sur ces attaques. Nous avons aussi, au cours du week-end, travaillé, appuyé les autorités provinciales dans des processus de dialogue entre les leaders communautaires pour essayer d'empêcher autant que faire se peut que cette situation n'échappe au contrôle et qu'on se retrouve dans des logiques de d'attaque mutuelle à nouveau. C'est vrai que la douleur est grande, mais il ne faut pas que cette douleur-là nous amène à oublier l'essentiel, qui est d'éviter que la situation n'échappe au contrôle.
Pendant ce temps, à Goma, le comité laïque de coordination CLC a échangé ce lundi avec les responsables du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL. Au menu, la recrudescence de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une rencontre qui intervient quelques jours après que le CLC a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, en particulier sur la tension qui s'observe entre le Rwanda et la RDC, notamment à travers les incidents militaires grandissants enregistrés dans la zone frontière entre ces deux pays. Élisée Chikota nous fait le compte-rendu de cette réunion.
D'après nos sources, le comité laïque de coordination Antenne du Nord Kivu a fait part à l'équipe du mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL de ses vives préoccupations par rapport aux violations répétées de l'intégrité de la RDC par les pays de la sous-région du Grand Lac et confirmée par plusieurs sources, sauf le mécanisme conjoint de vérification élargi, ce qui n'est pas de nature à favoriser une paix durable dans la région. En réaction, le mécanisme conjoint de vérification élargie a expliqué son mandat, ses réalisations ainsi que ses limites, tout en soulignant que ses rapports permettent aux États et autres partenaires de contribuer à résoudre les problèmes de sécurité dans la région. Les deux parties se seraient mises d'accord à l'issue de la rencontre sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour faire respecter l'intégrité du territoire de la RDC et d'élargir ces discussions aux différentes couches de la population. L'objectif est non seulement d'expliquer à cette population son mandat, mais surtout l'écouter et répondre à ses préoccupations. Rappelons que des échanges de tirs avec mort d'homme ont été enregistrés à maintes reprises entre l'armée congolaise et rwandaise dans la zone frontière en territoire de Nyiragongo, mais aussi à la petite barrière entre les villes de Goma et Gisenyi, sans parler des arrestations des civils dans les villages frontaliers.
Et puis les déplacés du camp de Moulicha, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Kalemie, vivent dans des conditions précaires. D'après l'administrateur du territoire de Kalemie, deux nourrissons ont perdu la vie et il y a quelques jours à la suite du manque de soins de santé. Il lance un SOS aux autorités et aux organisations humanitaires. Le point avec Paulin Munanga.
D'après certaines sources, plus de 1300 ménages vivent dans les camps de Moulicha. Les déplacés manquent de nourriture et n'ont pas d'abri ni de lieu d'aisance. Pour l'administrateur du territoire de Kalemie, les déplacés ont été recensés puis ont reçu des jetons. Bernard Bokalanganya confirme la mort des deux nourrissons en quelques jours suite à une infection tétanique. Il souligne que les déplacés ont besoin de l'aide.
Ils sont là, découpés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas d'assistance. Je pense que la première chose, il faut d'abord leur venir en aide et voir s'il y a des irrégularités à combattre. On les combattra après. Ce n'est pas tout le monde qui est irrégulier là-bas. Il y a vraiment des nécessités parmi eux aussi. Ce sont les humanitaires qui sont passés par là parce que nous avons des preuves de leurs jetons, de leurs recensements.
À en croire l'administrateur du territoire de Kalemie, le camp de Moulicha existe depuis quelques mois. Cependant, il n'est pas officiellement reconnu. Des déplacés sont venus de différentes contrées. C'est notamment des anciens déplacés de Kabimba qui provenaient du Burundi et de la Tanzanie, explique-t-il. Contacté, le HCR sous délégation de Kalemie n'est pas au courant de l'existence de ce camp de déplacés. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et puis, affaire meurtre de l'abbé Godefroy Pembélé à Kikwit dans la province du Kwilu, les présumés meurtriers sont aux arrêts. Selon le commandant urbain de la police de Kikwit, l'un de ces suspects est le cousin propre du défunt prêtre. Le colonel Odon Kachala s'est dit préoccupé et rassure que des enquêtes se poursuivent pour établir les responsabilités, il a dit à Irène Bouma.
L'information est que, bon, je vais parler d'abord des suspects, parce que vouloir donner la confirmation, là, c'est le juge qui donne la confirmation pour nous. C'est d'abord les suspects. Donc, le premier suspect que nous avons arrêté, c'est un des cousins de l'abbé qui est mort. Il est aux arrêts chez nous. Les autres personnes que nous avons interpellées, c'est toujours dans le cadre de recherches. Nous n'avons pas encore de confirmation nette sur la personne. Nous n'avons pas à vous dire exactement. Nous sommes encore dans les enquêtes et dans les recherches. Mais au moins, nous avons interpellé certains suspects. Mais les suspects sur qui les suspicions pèsent le plus, c'est sur son cousin d'abord qui est aux arrêts. Non, en tout cas, par rapport à l'événement, nous pensons que nous sommes tellement touchés par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous allons vraiment nous déployer juste pour éclairer la lanterne par rapport à ces crimes odieux. Un crime capillaire comme ça, nous devons vraiment nous investir pour trouver qu'est-ce qui est arrivé, qui a fait ça.
Les villes de Bukavu et Uvira au sud Kivu et Goma au nord Kivu connaissent de sérieuses perturbations en énergie électrique depuis hier lundi 8 août. À la base, les machines de la SNEL le sud Kivu sont tombées brusquement en panne suite à leur vétusté et leur envahissement par les déchets plastiques qui sont jetés dans la rivière Ruzizi. Emmanuel Elameji Wakabedi a visité ce mardi matin la centrale hydroélectrique de la Ruzizi en compagnie des responsables de la SNEL sud Kivu. Voici ce reportage.
La centrale hydroélectrique de la Ruzizi 1er de la SNEL Sud Kivu fonctionne normalement avec 4 machines, dont 2 installées en 1958 et 2 autres en 1974. Mais brusquement, ce lundi, 3 de ces 4 machines sont tombées en panne, plongeant ainsi les villes de Bukavu, Uvira et Goma dans le noir. Monsieur Jovi Moulemangabo, directeur de la SNEL Sud Kivu, parle des causes de cette panne.
On a vraiment des difficultés parce que hier, il n'y a qu'une machine qui fonctionnait. Sur le groupe numéro 4, il y a une fuite très importante, raison pour laquelle on l'a arrêté. Ce sont des groupes qui sont déjà vétustes. Il y a 2 qui ont été installés en 1958 et les 2 autres groupes numéro 3 et 4, ils ont été installés en 1974. Ce sont des machines qui travaillent 24 sur 24. Si toutes les conditions hydrologiques sont réunies, nous pouvons aller jusqu'à 29 MW. Mais avec les problèmes que nous connaissons, des niveaux d'eau, des déchets que les gens jettent sur les lacs et qui viennent échouer ici et au barrage de la Ruzizi, on ne peut plus arriver à 29 MW. Souvent, nous nageons entre 21 et 23 MW.
En dehors de cette centrale propre à la SNEL Sud Kivu, une autre quantité du courant électrique provient du barrage de la Sinelac qui dessert le Rwanda, le Burundi et la RDC au Sud Kivu. Emmanuel Elamijo Akabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Kassa Oriental, interdiction formelle de construire sur les espaces de la société minière de Bakwanga, appelée Cité. La suspension des travaux de construction concerne les 5 sites Miba, soit à partir de la cité 41 jusqu'à la cité 45, ainsi que sur l'espace dite pépinière de la commune de la Kanchi. Cette décision est contenue dans un arrêté provincial rendu public hier lundi soir. D'après le gouverneur de province, cette décision est salutaire car elle vise à préserver la paix sociale entre la société minière des Bakwanga Miba et les autochtones Bakwanga. Un extrait de cet arrêté lu ici par André Rosier Nzongola, attaché de presse du gouverneur de province.
Le gouverneur de province, considérant l'impératoire de mettre définitivement fin à l'anarchie manifeste et aux manœuvres illicites d'expoliation dans l'impunité due des concessions foncières de la société minière de Bakwanga, vu l'urgence et la nécessité arrête. Il est strictement interdit de construire des lotis et d'accéder sur les cités 41, 42, 43, 44, 45 et la pépinière de la Liba dans la commune de la Kanchi, ville de Mougemain. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté. Article 3. Le ministre provincial en charge des affaires foncières, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Mougemain, le chef des divisions des cadastres au même ressort et le commissaire provincial de la police nationale congolaise sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution sans faille du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
À Beni, dans le Nord Kivu, 4 blessés graves et une moto endommagée. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu la nuit de lundi à ce mardi au centre-ville. Selon le commandant de la police de circulation routière, une voiture qui roulait à vive allure a percuté un motard avec son client et voulant s'échapper, il percutera deux autres personnes non loin de la mairie de Beni. Le major Célestin Limbi ajoute que la police s'est vite intervenue afin d'empêcher la population de rendre justice au lieu d'accident. La police qui a réussi à ramener rapidement les blessés à l'hôpital général de Beni, qui tous sont dans un état critique, a-t-il dit.
Actualité internationale.
Le gouvernement guinéen vient d'annoncer la dissolution du FNDC, une coalition des partis, syndicats et organisations de la société civile. Le Front national pour la défense de la Constitution a été le fer de lance dans la contestation contre l'ancien président Alpha Condé et s'oppose depuis plusieurs mois à la junte au pouvoir. Dans un arrêté daté d'hier soir, le gouvernement de transition accuse le mouvement d'organiser des manifestations armées sur la voie publique et lui reproche d'agir comme un groupe de combat ou une milice privée.
L'invité.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken arrive ce mardi à Kinshasa pour des échanges avec les autorités congolaises. Cette visite intervient au moment où la RDC est victime d'une agression de groupes armés et terroristes, notamment le M23, appuyé par le Rwanda. Ces derniers temps, Washington et Kinshasa ont raffermi leurs relations bilatérales et diplomatiques. Qu'est-ce que cette visite peut représenter pour les deux pays? Le procès Serge Tshibangu, mandataire spécial du président Félix Tshisekedi, s'entretient ici avec Billy Ivan Lutumba. Suivez.
Professeur Serge Tshibangu, bonjour.
Bonjour Monsieur Billy.
Aujourd'hui, le secrétaire d'État américain effectue une visite ici à Kinshasa. Quelles sont les attentes principales du pouvoir de Kinshasa par rapport à ce séjour de Anthony Blinken à Kinshasa?
En réalité, cette visite de Anthony Blinken à Kinshasa est là pour renforcer les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays. Et vous imaginez bien que les discussions tourneront autour de la situation sécuritaire à l'est du pays, dont notre pays est victime de l'agression M23 par Rwanda, mais aussi une visite qui nous permettra de discuter sur les moyens de renforcer nos relations d'affaires entre nos deux pays, notamment à travers le commerce. Comme vous le savez, la RDC a été instaurée dans AGOA pour nous permettre justement des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous allons parler économie en général, nous allons parler coopération militaire qui a été signée entre nos deux pays depuis 2020.
L'actualité à présent, c'est cette agression de la RDC par le M23 avec l'appui cité du Rwanda. Et juste après Kinshasa, Anthony Blinken se rendra à Kigali au Rwanda. Pensez-vous qu'il faille continuer avec la diplomatie ou plutôt insister à présent sur les sanctions contre le Rwanda?
Et je crois que la diplomatie de haut niveau prônée par son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de donner ses fruits aujourd'hui. Le fait qu'il y a par exemple le groupe d'experts des Nations Unies qui vient de publier son rapport, bien sûr qui est confidentiel, qu'il a soumis au comité des sanctions des Nations Unies, vous avez plusieurs rapports qui attestent de la situation réelle sur le terrain à l'est du pays. Donc tout ceci sont des démarches diplomatiques qui aboutissent aujourd'hui à des résultats concrets. Donc la diplomatie ne s'arrêtera jamais et devra continuer, même si après il y a d'autres canaux pour faire passer des messages, ça peut être des approches militaires, mais la diplomatie a toujours un pas d'avance par rapport à toutes les autres approches qui existent. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, on a parlé suffisamment. Ce que nous pensons effectivement, c'est que s'il y a un pays, selon la charte des Nations Unies, la charte de l'Union africaine, agresse un pays, qu'il soit voisin ou ailleurs, normalement, il y a donc tous ces canaux et tous ces cadres légaux qui existent pour pouvoir prôner justement l'appel aux sanctions et le reste. Donc, encore une fois, les sanctions restent quand même des instruments très forts et très puissants pour pouvoir résoudre des problèmes comme des problèmes d'agression et le reste.
Et s'il faut un message que Kinshasa pourrait transmettre à Kigali, ce serait lequel?
Le message, il est déjà passé de toute façon, il continue à le passer. Il y a des choses qui ne sont pas dites sur les ondes de la radio ou de la télévision, encore dans les réseaux sociaux, mais je peux vous dire que le message qui est destiné au Rwanda, il ne vient pas forcément de la RDC seulement, mais même les États-Unis eux-mêmes, je crois qu'ils ont déjà haussé le ton sur ou contre le Rwanda depuis que les hostilités ont été déclenchées par le M23.
Je me rappelle que vous avez été à l'aéroport d'Njili pour accueillir des troupes américaines ici en RDC. Au jour d'aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette coopération militaire?
La coopération militaire avec les États-Unis se porte très bien. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'efforts que nous devons fournir des deux côtés, dépendant de la dynamique sur le terrain. Mais je pense que cette visite, par exemple, que vous avez mentionnée, a été très importante, elle a été très cruciale par rapport aux événements et la position que les États-Unis adoptent aujourd'hui sur la situation à l'est du pays. Donc, nous sommes en train de voir comment discuter et augmenter, si je peux dire, les niveaux de coopération particulièrement militaire et dans le domaine de la défense en général pour faire bénéficier à nos deux pays.
Parlons du partenariat privilégié RDC États-Unis. Ça a été longtemps chanté, mais sur terrain, on ne voit rien de concret par rapport à ce partenariat privilégié tant chanté par Washington et aussi Kinshasa.
Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous faisons partie de plusieurs programmes, non seulement d'assistance, mais de plusieurs programmes d'investissement des États-Unis vis-à-vis de la RDC. Je citerai par exemple la dernière initiative, là où la RDC va bénéficier du financement dans le secteur de l'agriculture. L'initiative s'appelle Feed the Future, qui est une initiative américaine pour pouvoir emmener la résilience en agriculture. Non pas seulement pour nourrir les populations congolaises, mais aussi ceci positionne la RDC pour pouvoir jouer un rôle au niveau même de l'Afrique centrale et même des autres régions du continent. Il y a une autre initiative qu'on appelle Mineral Security Partnership pour un partenariat stratégique avec des pays comme la RDC qui produisent des minerais stratégiques qui servent notamment aux fabrications des véhicules électriques et autres. Donc il existe des programmes qui positionnent aujourd'hui la RDC en tête de la liste du partenariat stratégique avec les États-Unis, juste parce que nous parlons du partenariat privilégié qui existe entre nos deux pays.
Professeur Serge Tshibangu, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.